Il y avait la belle jardinière, il y a le beau jardinier.
Oh, n'exagérons pas.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric Delvaux, bonjour Karine, bonjour à
bonjour
tous.
Alain.
Ce matin, on va s'intéresser aux journées des plantes de Chantilly. C'est aujourd'hui et demain.
Et c'est très certainement la plus importante et la plus belle des fêtes des plantes avec 200 exposants venus de toute l'Europe. On y trouve de quoi satisfaire tous les jardiniers, amateurs et professionnels. Et les collectionneurs de plantes rares. Cette manifestation est aussi l'occasion de découvrir un château et des jardins d'exception.
Oui, ces jardins-là même, on les considère comme parmi les plus beaux de France, non ?
Ils sont à juste titre considérés ainsi, et ce depuis leur création. C'est André Lenôtre qui les a créés, et ils furent tout de suite ses préférés, oui, parce qu'il savait quand même dessiner.
Voilà,
ça, incontestablement. Il les préférait même à ceux de Versailles.
Ah bon ?
Eh bien, oui. Il écrit en 1686 au duc de Bentinck. Il dit, venez donc en France voir les plus beaux jardins. Et il cite différents domaines et dit, et surtout Chantilly. Chantilly avait donc sa préférence. Alors, ces jardins, il les a créés pour le prince Louis II de Bourbon-Condé, dit le grand Condé, qui a besoin de montrer à toute l'aristocratie qu'il a retrouvé sa place auprès de Louis XIV après qu'il en ait été écarté pour avoir participé à la Fronde. En ce temps-là, voyez-vous, Karine, il n'existe rien de mieux qu'un jardin pour afficher sa puissance et sa richesse. Fouquet, 10 ans plus tôt, l'a d'ailleurs appris à ses dépens.
Alors, on va pas revenir sur cette grande histoire-là, mais à Chantilly, on a un jardinier qui s'est complètement surpassé.
Ah oui, quand vous découvrez le domaine, vous êtes absolument, j'allais dire, épaté.
Bluffé.
Eh oui, tout à fait. André Lenôtre a conçu en premier plan un grand parterre composé de 2 carrés gazonnés qui semble, quand on regarde, parfaitement symétrique, alors que le parterre ouest est d'une surface inférieure à celui orienté à l'est. En jouant sur les perspectives, en jouant sur l'effet d'optique, il a été capable de créer quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc oui, ce parterre est absolument merveilleux et l'ensemble des jardins de Chantilly est spectaculaire. Alors, je reviens sur la fête des plantes de Chantilly. J'y étais hier, donc je peux vous en parler avec beaucoup de détails. C'est l'automne qui est célébré. Vous avez des coloris parmi les plantes proposées absolument exceptionnelles. Et je rappelle pour ceux qui ignoreraient encore que Chantilly est dans le département de l'Oise.
Eh bien, on ira jeter un œil, et plus que ça, même à ce
ah oui, allez-y vraiment,
salon de Chantilly.
C'est merveilleux.
Vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter, Isabelle, à propos de son mirabellier, les feuilles de cet arbre se sont enroulées, les feuilles se dessèchent. Pourtant, on n'a pas vu de puceron, dit Isabelle. Elle vous demande, que se passe-t-il ?
Corineum, c'est pas le nom de ma fiancée, c'est le nom d'un champignon. Et oui, un champignon qui, un petit peu comme la cloque du pêcher, va, avec la chaleur et l'humidité, provoquer cette distorsion, cette déformation et cette dégradation du feuillage.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Rien.
Ah bon ?
Rien, je veux dire pourquoi Karine ? Nous sommes en octobre et nous sommes à la veille de l'automne.
Donc les feuilles vont tomber.
Elles vont tomber naturellement. Par contre, ce qu'il faut faire dans ce cas précis, c'est évacuer les feuilles. Parce que les champignons peuvent rester longtemps, j'allais dire, présents sur le site. Donc, on évacue les feuilles, on ratisse bien les feuilles, on les évacue en dehors du jardin, on évitera de les mettre sur le compost. Si on les met, c'est pas non plus un drame. Et logiquement, l'an prochain, si le printemps est sec et chaud, il n'y aura plus de problème. Mais ça, pour l'an prochain, c'est une autre histoire.
Ah oui.
Sandrine, à propos de son olivier, l'arbre a probablement 30 ans, dit-elle. Il semble avoir eu une coupe de mise en forme de sa charpente il y a une dizaine d'années. Et depuis, eh bien, les récoltes baissent chaque année. En 2018, on récoltait 23 kilos d'olives, seulement 3 kilos l'an dernier. Que me conseillez-vous, Alain Baraton ?
Alors, il est vrai que l'olivier, je le dis souvent, n'a pas besoin d'être taillé pour être beau. Je dis bien pour être beau. Vous avez un jardin au nord de la Loire, le plus souvent avec un olivier, n'y touchez pas, c'est déjà miraculeux qu'il soit en pleine santé. Pour avoir des fruits, oui, il faut le tailler. Il y a 3 tailles pour l'olivier. La taille de formation, c'est quand on le plante. La taille de l'entretien en cours d'année, et c'est en février, où là on va couper les rameaux disgracieux, blessés, gênants. Et puis après, il y a la taille de fructification qui, elle, s'opère, on va dire, tous les 2 ou 3 ans. Pour faire très simple, on va faire une taille en gobelet. Vous imaginez un gobelet à quoi il peut ressembler, un verre à pied si vous préférez. Vous avez le tronc et vont partir de ce tronc 5 ou 6 branches dites charpentières.
C'est comme les vignes en fait, parce que la vigne aussi, il y a une coupe en gobelet.
Tout à fait. Et l'objectif est le même. Permettre au vent de circuler pour assécher le cœur de la ramure, permettre au soleil, là aussi, de venir caresser l'intégralité de la ramure. N'oubliez pas non plus de tailler de moitié approximativement les rameaux qui ont porté des fruits. et se souvenir que plus le fruit est proche du tronc, ça peut paraître bizarre, mais plus le fruit sera meilleur. Donc il y a plusieurs petites techniques, mais rappelez-vous également que la plante est délicate. Il ne faut pas s'amuser à rabattre un olivier au bout de 20 ans, non. Si on veut qu'il fructifie, c'est tout le 2 ou 3 ans, et pour répondre précisément à la question, c'est en février.
Très bien, c'est noté.
Sauf s'il gèle. Je vous rappelle qu'on n'intervient pas quand il gèle. Le jardinier, le bon jardinier, quand il gèle, dort.
Monique, un citronnier en pot depuis plus de 20 ans, il est attaqué par la cochenille. Alors j'ai essayé le savon noir, dit-elle. De plus, j'enlève tous les jours les amas blancs. Et malgré ça, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Que faire?
Pour la 3000e fois, je vais donc rappeler la recette miracle contre les cochenilles. Vous prenez une cuillère à café de savon noir. On en a déjà parlé. Vous prenez une cuillère à café d'alcool. L'alcool médical, l'alcool à 90, c'est parfait. Et vous prenez une cuillère à café et d'huile, de l'huile même de cuisine. Vous mettez l'ensemble dans 1 litre d'eau et vous agitez. Ensuite, vous pulvérisez sur et sous les feuilles. Je vous rappelle que beaucoup de bestioles se mettent dessous.
Sous les feuilles.
Et vous renouvelez 1 heure plus tard l'opération et vous reproduisez ce geste, on va dire tous les 8 ou 10 jours. Et effectivement, au bout d'un moment, les bestioles disparaîtront. Et ce produit n'est pas un produit miracle, parce que le savon noir fait tout simplement une petite pellicule avec l'huile qui empêche la bestiole de respirer. Mais vu qu'elle est sous une carapace, l'alcool va titiller la bestiole qui bouge quelque peu pour mieux respirer. Et boum, c'est comme ça qu'on peut la voir.
Vous dites tous les 10 jours, mais ça peut durer longtemps, quoi. Il faut oser le faire pendant un mois et demi si c'est nécessaire.
L'huile de coude. Jusqu'à disparition complète de la bestiole, et c'est pas gagné.
Allez, un dernier conseil, c'est un livre.
Oh oui, Le goût des fruits, ce sont des textes choisis et présentés par Jean-Yves Maisonneuve. C'est une succession de petits textes, eh bien, sur le goût des fruits, tout simplement.
Le goût des fruits.
Eh oui, Mercure de France, tu sais, ces petites éditions, il y a un terme exact d'ailleurs, dans le petit Mercure. Et j'ai beaucoup aimé. Vous avez ça dans votre poche, vous prenez le train, vous prenez
la voiture. C'est un petit format, oui.
Et vous rêvez.
Eh ben, vous rêvez.
Merci, Alain Baraton, et à demain.
À demain.